vous êtes bien sur RFI, il est 20h30 à Paris.
Afrique Soir.
C'est avec vous Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Au Gabon, l'Assemblée constituante chargée d'examiner la future constitution convoquée demain pour 10 jours. Cette loi soumise à référendum d'ici la fin de l'année prévoit l'instauration d'un régime présidentiel. Au moins 30 morts, 400 000 déplacés. La situation est critique dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-ouest du Nigeria. Les pluies torrentielles ont provoqué la rupture d'un barrage. Des inondations qui frappent une bonne partie du nord, du centre et de l'ouest de l'Afrique. Nous ferons le point sur ce phénomène inquiétant. En Guinée-Bissau, le président sortant Oumarou Sissoko Embalo affirme qu'il ne se représentera pas à la présidentielle de 2025. Une annonce qui a créé la surprise, nous dira Frédéric Gara. En Tunisie, l'avocate Sounia Damani, condamnée en appel à 8 mois de prison ferme pour des propos critiques à l'encontre du président Kais Saied. Ses avocats dénoncent un harcèlement judiciaire. À suivre le football et le bilan des matchs éliminatoires comptant pour la CAN. Et puis musique, Pierre Vallée nous parlera du grand guitariste malien Zani Diabaté, disparu en 2011, surnommé le Jimi Hendrix de Bamako. C'est un rendez-vous important qui débute demain au Gabon. L'Assemblée constituante chargée d'examiner la future constitution soumise à référendum d'ici la fin de l'année va donc se réunir pour 10 jours. Un projet de loi qui divise. Il prévoit notamment d'instaurer un régime présidentiel à Libreville, Yves Laurent Goma.
Les 98 députés et les 70 sénateurs de la transition sont membres de l'Assemblée constituante qui sera dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Juste après la cérémonie d'ouverture, un bureau sera mis en place pour coordonner le travail. Les parlementaires ont 10 jours seulement pour se prononcer sur la constitution dont le projet a été rédigé par un comité. Ce projet prévoit un régime présidentiel, la suppression du poste de premier ministre au profit d'un vice-président du gouvernement. Les critères d'éligibilité à la présidence de la République ont été corsés. Il faut par exemple être de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais, être âgé de 35 à 70 ans, avoir résidé au Gabon durant les 3 années précédant l'élection. Beaucoup de Gabonais ont dénoncé une constitution taillée sur mesure pour le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Ses partisans saluent un texte qui répond aux attentes des populations. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Au moins 30 morts et 400 000 déplacés dans le nord-ouest du Nigeria. Une grande partie de la ville de Maïdougouri est sous l'eau depuis la rupture hier d'un barrage causé par de fortes précipitations. Des milliers de maisons ont été submergées. Ézéchiel Manzo, porte-parole de l'Agence nationale de gestion de catastrophes, décrit une situation critique. Il répond à Christina Okello.
Les infrastructures ont été endommagées et nous avons dû créer des camps de fortune pour accueillir les sinistrés en attendant que le niveau de l'eau baisse pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Plus de la moitié de la ville est inondée, ce qui signifie que le nombre de personnes touchées se chiffre en centaines de milliers. Les entreprises sont paralysées, les gens ne peuvent pas se déplacer librement, mais l'une de nos principales préoccupations porte sur la qualité de l'eau. Les cimetières et les terrains de sépulture ont été inondés et l'eau coule désormais depuis les égouts sales vers les maisons, ce qui risque d'entraîner la transmission de maladies. Même les fosses septiques ont été inondées et cela risque de contaminer les sources d'eau. C'est donc une situation préoccupante.
Alors Maïdougouri, sous les eaux nigériennes à la suite de l'effondrement de ce barrage. En cause, on l'a dit, les pluies diluviennes qui continuent de tomber comme sur une bonne partie du nord, du centre et de l'ouest de l'Afrique. Et le phénomène ne semble pas prêt de s'arrêter. Explication Simon Rosé.
C'est peut-être l'exemple le plus spectaculaire, ces précipitations importantes sur le désert du Sahara, pourtant l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais c'est bien une bonne partie du continent africain qui est confrontée à ces conditions météo particulières. En cause, ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, une bande nuageuse très humide, normalement centrée sur l'équateur. On l'appelle également la ceinture de pluie. Elle remonte habituellement vers le nord au mois d'août, mais cette année, en raison du changement climatique, elle a tendance à grossir et s'étend plus que d'habitude. On est donc donc sur une fin de saison des pluies plus humide que la normale et les prévisions ne sont pas très optimistes pour les jours, voire les semaines à venir. À moyen terme, on est sur une tendance similaire. L'Organisation météorologique mondiale anticipe d'ici la fin de l'année une probable survenue du phénomène La Niña, qui a grosso modo des conséquences opposées à celles d'El Niño. Si ce dernier a globalement un effet réchauffant et asséchant, La Niña entraîne, elle, généralement des précipitations plus intenses, notamment sur la Corne de l'Afrique et le Sahel.
Simon Rosé, alors un barrage qui cède au Nigeria provoquant de graves inondations, voilà qui rappelle dans une moindre mesure toutefois le scénario catastrophe survenu il y a un an. C'était à Derna, en Libye, souvenez-vous, une ville dévastée, quasiment engloutie par la rupture de deux barrages en plein passage de la tempête Daniel. Des milliers de morts, plus de 40 000 déplacés un an après la tragédie. La ville est aujourd'hui un vaste chantier. C'est toujours l'opacité sur les circonstances de la catastrophe et sur les conditions de la reconstruction. Wolfram Larcher, des chercheurs à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, spécialiste de la Libye. Wolfram Larcher avec Nicolas Sûr.
En fait, on ne connaît même pas les noms de la plupart des 12 responsables qui ont été condamnés. Le procès s'est fait en huis clos. Tout a été fait pour étouffer l'espoir de vraiment faire la lumière sur les responsabilités dans la catastrophe. Et d'ailleurs, c'était le cas dès le début quand les forces de Haftar ont fait arrêter des manifestants à Darna qui avaient demandé justice. Et c'était aussi clair dès le début dans la manière dont l'enquête avait été ciblée, à savoir uniquement sur les responsabilités dans la négligence du maintien des barrages de Darna et non pas sur les ordres contradictoires d'évacuation ou de confinement que les autorités avaient donné dans différents quartiers de Darna la veille de la catastrophe.
Alors Derna est aujourd'hui en cours de reconstruction hein, grâce à un fonds de développement et de reconstruction créé par les autorités de l'Est et dirigé par l'un des fils du maréchal Haftar, Belkacem Haftar. Ce fonds est très critiqué pour son opacité. Est-ce qu'on sait de quelle somme d'argent il dispose et comment cet argent est effectivement utilisé ?
Non, on ne sait pas quelle somme d'argent est utilisée. On ne connaît pas les sources de l'argent et on ne sait rien sur comment il est utilisé. Ce qu'on peut dire, c'est que le clan Haftar, donc Khalifa Haftar et ses fils, saisissent la reconstruction comme opportunité pour se présenter en tant que bâtisseur, tout en se remplissant les poches, parce qu'il y a quand même beaucoup d'allégations de corruption. La source de financement, tout d'abord, est entourée d'une opacité totale, parce que le gouvernement de l'Est et ses fonds de reconstruction n'ont officiellement pas accès à des budgets déboursés par la Banque centrale à Tripoli. Donc une grande question est d'où vient l'argent. Puis, cette reconstruction, pas seulement à Darna, mais aussi dans d'autres villes à l'Est, est gérée par deux fonds, en fait, dont un est géré par un fils de Haftar Belkacem et l'autre contrôlé par un autre fils, Saddam. Donc, c'est une affaire extrêmement personnalisée, extrêmement centralisée dans les mains du clan Haftar et qui se fait en dehors de toute surveillance, tout contrôle par la Cour des comptes. Il y a d'autres problèmes comme le fait que la population, même les autorités locales, ne sont pas consultées, voire souvent même pas informées de ce qui est en train de se faire.
Wolfram Larcher, chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité avec Nicolas Sûr. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h38 en temps universel. Surprise en Guinée-Bissau ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, le président Umaro Sissoko Embalo a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat alors que la fin de son quinquennat est proche. Bonsoir Frédéric Gara.
Bonsoir Sylvie.
Une déclaration qui surprend hein, autant sur la forme que sur le fond.
Oui, c'est apparemment au terme d'un conseil de famille en tête-à-tête avec son épouse que l'actuel président de la Guinée-Bissau a décidé de ne pas se représenter à la magistrature suprême. Umaro Sissoko Embalo invoque le fait que selon selon lui et après avis de sa femme, Dinicia Reis Mbalo, eh bien, il ne servait à rien de s'engager à nouveau dans un combat politique avec des homologues qui, de son point de vue, ne sont pas d'un niveau suffisant. Le président Mbalo précise qu'il ira jusqu'au bout de son mandat avant la prochaine élection présidentielle de 2025, en soulignant que son successeur devra faire preuve d'une plus grande honnêteté et d'un plus grand sérieux que la classe politique actuelle. C'est une pierre dans le jardin de ses principaux opposants, au premier rang desquels le président du Parlement dissous, Domingo Simoes Pereira, dont Mbalo, Sylvie, nie toute capacité à diriger le pays.
Oui, et puis Frédéric, le chef de l'État bissau-guinéen, a profité de ce Conseil des ministres pour aborder l'affaire de la saisie de drogue à l'aéroport de Bissau, c'était samedi dernier.
Oui, 2,5 tonnes de cocaïne découvertes par la police judiciaire dans un bimoteur Gulfstream 4. Le président a déclaré que l'avion, d'une valeur estimée de 10 millions de dollars, eh bien, serait vendu au profit des caisses de l'État. Il s'agissait d'une des plus importantes saisies faites par les unités antidrogues du pays. Il faut rappeler que l'instabilité politique et la grande pauvreté de la Guinée-Bissau est un terreau favorable à l'implantation des grands réseaux de trafic de drogue entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe.
Frédéric Gara. Au Mali, le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, et l'adjudant-chef Abdoulaye Balo ont été ramenés au camp 1 de la gendarmerie de Bamako dans la nuit de lundi à mardi. Accusés de complot, les deux hommes avaient été enlevés dans leur cellule en mai et en juillet dernier. Depuis, ils étaient détenus par les services maliens de la sécurité d'État. Tout cela en violation de la procédure judiciaire et après plusieurs mois au secret, ils ont donc réapparu, mais dans un état de santé inquiétant, David Bachet.
Leurs avocats sont plus préoccupés que soulagés. C'est l'état de santé du colonel-major Kassoum Goïta qui les inquiète le plus. Lui-même ancien directeur de la sécurité d'État, il avait été nommé à ce poste après le premier coup d'État d'août 2020, puis évincé après le second de mai 2021. À l'époque, le président de transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Wane avaient tenté un remaniement gouvernemental, ce qui avait suscité la colère des militaires putschistes et provoqué cette rectification de la transition. Dans les mois qui ont suivi, le colonel Kassoum Goïta, mais aussi l'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, étaient enlevés par la sécurité d'État. C'est le cas au total de 6 personnalités, dont un ancien commissaire de police, un opérateur économique et un marabout. Leur cas avait finalement été transmis à la justice. Les 6 hommes sont poursuivis pour tentative de complot contre le gouvernement. Leur conseil dénonce un dossier vide, un procès des fidèles de l'ancien président Bandao. Lors de leur premier passage aux mains de la sécurité d'État, il y a 3 ans, les détenus avaient subi déjà d'atroces tortures, des charges électriques, simulations de noyades. Aucune précision à ce stade sur ce que le colonel Kassoum Goïta et l'adjudant-chef Abdoulaye Balo ont subi pendant ce deuxième séjour au secret.
En bref, dans l'actualité, 1 mort et 3 blessés dans l'effondrement d'une bâtisse à la Casbah d'Alger, un site classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, un site historique densément peuplé où, malgré un plan de rénovation qui avait été lancé en 2012, plusieurs vieilles maisons tombent en ruine. L'Algérie ou l'ANIER, qui est l'autorité électorale, a annoncé dimanche la réélection d'Abdelmadjid Tebboune avec près de 95% des voix à la présidence du pays. Mais les deux adversaires du président sortant contestent ces résultats. Hier, ils ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Pierre Firsian.
Après l'islamiste Abdelali Hassani, Youssef Aouchiche a lui aussi choisi hier de se tourner vers l'organe suprême. Le candidat socialiste a appelé à un nouveau dépouillement dont de nombreux bureaux de vote et dont de nombreuses wilayas, les préfectures, où estime-t-il le taux de participation a été gonflé. Et Youssef Aouchiche d'ajouter « En aucun cas nous ne pouvons accepter les résultats du scrutin qui ne reflètent pas la volonté populaire ». Abdelali Hassani est lui allé encore plus loin. « Ce qu'a fait l'ANIER, a-t-il déclaré, est un crime qui a terni l'image du pays ». Le candidat islamiste a assuré qu'il disposait de preuves de ses dires. Les deux candidats avaient dès lundi dénoncé une fraude concernant à la fois le taux de participation et leurs propres résultats à ce scrutin. Dimanche, l'ANIER avait crédité Abdelali Hassani de 3,17% des voix et Youssef Aouchiche de 2,16% des suffrages. Abdelmadjid Tebboune avait lui été donné large vainqueur alors que le taux de participation était estimé à 48%. La Cour constitutionnelle a désormais 3 jours pour statuer sur ses recours et 10 jours pour proclamer les résultats définitifs, 10 jours à partir de la réception des procès-verbaux. Or, lundi, la Cour avait annoncé ne pas avoir reçu les procès-verbaux de 6 des 58 préfectures du pays.
Et en Tunisie, la sentence est tombée pour l'avocate et chroniqueuse Sonia Damani. Elle a été condamnée en appel à 8 mois de prison ferme pour des déclarations jugées critiques à l'encontre du président Kais Saied. Au cours d'une émission télévisée, c'était en mai dernier, elle avait critiqué la situation du pays, ce qui lui avait valu une arrestation manu militari en direct sur France 24. Et les avocats de Sonia Damani dénoncent un harcèlement judiciaire. Ouélie Diallo.
Cette condamnation en appel se fait en vertu du décret présidentiel 54 sur la diffusion de fausses nouvelles, critiquée par des défenseurs des droits pour une interprétation trop large. En mai dernier, après qu'un chroniqueur a affirmé que des migrants subsahariens cherchent à s'installer durablement en Tunisie, Sonia Damani lui avait rétorqué « De quel pays extraordinaire parle-t-on ?» Des propos qui lui ont valu des poursuites pour fausses informations dans le but de porter atteinte à la sûreté publique et incitation à un discours de la haine. Son arrestation avait déclenché une grève et une vague de protestations. Sa sœur cadette dénonce des fouilles à nu et mauvais traitements dans la prison, tandis que ses avocats parlent d'un harcèlement judiciaire. L'un d'entre eux a même déclaré à l'AFP que la défense n'a même pas pu plaider pour sa remise en liberté, ainsi que son intention de saisir le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire.
20h45 ici à Paris, 18h45 en temps universel. L'épidémie de Mpox, autrement dit la variole du singe, dans l'est de la République démocratique du Congo. 5 tonnes de médicaments, des kits de protection pour les personnels de santé ou encore des solutions désinfectantes, des tentes sont arrivées hier par avion à Goma. C'est ce qu'annonçait le bureau du gouverneur de la province du Nord Kivu. Environ 265 000 doses de vaccins ont d'ores et déjà été livrées à Kinshasa ces derniers jours, mais ces vaccins doivent encore être déployés sur toute l'immensité du territoire congolais. La fin de la grève à l'aéroport international de Nairobi, les syndicats kényans annoncent ce soir être parvenus à un accord avec la direction. Le trafic a été perturbé ce matin, de nombreux retards et annulations ont été enregistrés. Le football avec les éliminatoires de la CAN 2025, les deux premières journées se sont achevées avec les derniers matchs disputés hier. Au tiers de ce parcours qualificatif pour la phase finale au Maroc, plusieurs sélections ont d'ores et déjà pris date. On fait le point avec Eric Mamrut.
7 équipes ont fait carton plein en empochant 6 points sur 6 possibles. En tête, celle du Maghreb avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Mais c'est l'Égypte qui a fait la plus forte impression en marquant 7 buts sans en encaisser un seul. Pas mal non plus le champion sortant ivoirien, l'Angola et une autre sélection brillante lors de la dernière CAN. La République démocratique du Congo également victorieuse de ses deux premiers matchs. D'autres cadors du continent se sont contentés d'une victoire et d'un nul. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun et le Nigeria compte également 4 points, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Ouganda et les surprenantes équipes de Tanzanie et du Kenya. Début d'éliminatoire moins convaincant en revanche pour le Cap-Vert, la Mauritanie, le Bénin, la Zambie, le Congo, le Gabon et la République centrafricaine qui ont enregistré une victoire pour une défaite. Mention spéciale pour le Togo, le Rwanda et les Comores avec 2 résultats nuls enchaînés qui préservent leurs chances de qualification. Quant aux contre-performances, elles sont venues du Ghana et de la Guinée équatoriale, un seul point au compteur. Même bilan pour la Gambie, Madagascar, le Niger et le Tchad. Que dire enfin de la Guinée, battue à 2 reprises et déjà au pied du mur.
Eric Mamrut, et les 2 prochaines journées auront lieu dans un mois, les 2 dernières se disputant mi-novembre. La phase finale au Maroc aura quant à elle lieu à la fin 2025.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Le troisième et dernier épisode de notre série de reportages sur les pagnes tissées en Afrique. Le Kanvo, un pagne tissé introduit au Bénin par le roi Agonglo, un des souverains d'Abomey qui a régné au 19e siècle et de plus en plus prisé par les couturiers béninois dans leur collection. Ce tissu prestigieux a même été labellisé en 2020. Les créateurs l'ont intégré pour apporter une touche d'authenticité et d'originalité à leurs pièces. Le Kanvo qui est au cœur de la création des couturiers béninois comme Mondoukpé ou encore Lolo Andoche. À Cotonou, c'est un reportage de Jean-Luc Aplogan.
Ce pain tissé traditionnel est riche en couleurs et en motifs. Il vient du royaume d'Abomey. C'est un vêtement d'apparat, résume la créatrice Faridatou Modupe Yekini. Elle a fondé en 2017 la marque Modupe.
Le Kanvo n'est pas un pain ordinaire. C'est d'abord un pain de prestige, un pain noble.
Charlemagne Amoussou, un des vétérans de la mode béninoise, connu sous le nom de Lolo Andoche, sa ligne de vêtements en est très fière.
La richesse béninoise, l'identité béninoise.
Le Kanvo a une particularité, dans sa version brute, il est très lourd et pas toujours simple à manier sur les tables de coupe. Les couturiers ont trouvé la solution.
On a retravaillé pour avoir quand même quelque chose de très fin, qui est portable, qui est consommable. Du coup, on a le Kanvo assez léger.
Mais ça ne suffit pas, il a très vite trouvé la technique.
Nous utilisons aussi le Kanvo mixé avec du lin, mixé avec de la soie. Quand c'est totalement Kanvo, parfois, certains sont un peu réticents. Mais le mettre en décoratif sur le vêtement, ça passe très bien.
Modupe réalise des robes de soirée, des chemises, des pantalons, des t-shirts et des accessoires. Sa dernière collection, baptisée Collection Ola, a eu beaucoup de succès. Dans le lot, elle avait son coup de cœur.
Une robe pour toutes les occasions. L'idée m'est venue comme ça de fusionner le Agbada classique qui était trois pièces de vêtements en une seule pièce. Il y a de la broderie. Et qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est notre broderie. C'est très agréable. Je me sens toujours mieux quand je porte du Kanvo. Et je le porte tous les jours.
Lolo Andoche, pionnier du Kanvo, a même ouvert un showroom à Cotonou. Particuliers et professionnels fréquentent la boutique. Et les chiffres ne sont pas mauvais.
Par an, nous sommes pour l'instant autour de 2000-3000 mètres. Mais ce qui est bien, on l'utilise beaucoup aujourd'hui pour les robes de mariage.
Il y a de l'engouement pour ce tissu emblématique auprès des Béninois. Ils apprécient.
Aujourd'hui, c'est à la mode.
Je porte la robe.
J'aime trop ça.
C'est beau.
C'est made in Bénin. J'aime bien.
Plusieurs événements nationaux célèbrent le Kanvo au Bénin. Il sera à l'honneur en octobre prochain avec le mois du consommant local. Les plateformes de vente en ligne et les réseaux sociaux font également sa promotion. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
RFI, c'est Afrique Soir que vous écoutez à suivre dans la soirée sur notre antenne. Accent d'Europe, alors on n'en parle pas beaucoup, mais dans la guerre en Ukraine, des soldats russes combattent auprès de Kiev contre le régime de Vladimir Poutine. On entendra ce témoignage dans Accent d'Europe à partir de 21h10, heure de Paris.
Nous ne sommes encore que quelques-uns, mais nous avons fait notre choix. Le bataillon sibérien et d'autres unités militaires composées de citoyens de la Fédération de Russie ont choisi leurs armes. Et j'exhorte tous ceux qui détestent le régime de Poutine à apporter leur aide et à y participer.
Et à suivre également ce soir sur l'antenne de la Radio du Monde, grand reportage qui nous emmènera en Amérique du Sud, surpopulation carcérale, hausse de la criminalité, corruption dans les prisons. En Colombie, depuis le début de l'année, 125 prisons ont été placées en état d'alerte. Colombie, les prisons sous haute tension, ce sera un grand reportage de Najet Benrabah.
Made in Prison est né d'une expérience douloureuse. Mon père a été privé de liberté pendant 5 ans et c'est ce qui nous a fait découvrir le système pénitentiaire en Colombie. On a vite subi les impacts économiques et émotionnels que la peine de prison engendre sur la famille, les doutes et les craintes lorsqu'il s'agit d'aller rendre visite à nos proches en prison.
Voilà, grand reportage à 21h40, heure de Paris. Et puis, pour terminer, Couleur tropicale à 22h10, toujours heure de Paris. Ce sera une rediffusion consacrée à spécial Cabo Love. Afrique Soir, et c'est le moment de notre rendez-vous musique, et c'est en compagnie de Pierre Vallée. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir d'une légende de la guitare malienne.
Oui, Zani Diabaté, un musicien malien, pas seulement guitariste, puisqu'il est aussi danseur et percussionniste. J'en parle au passé parce que Zani Diabaté nous a quittés en 2011, mais le label Numéro Groupe a eu la bonne idée de rééditer un de ses albums, enregistré avec son orchestre, le Super Diata Band. L'occasion pour les plus anciens de se replonger dans la nostalgie des années 80, et pour les plus jeunes, de découvrir un des guitaristes les plus estimés au Mali, avec l'incontournable Ali Farka Touré et l'excellent Djeli Madi Tounkara.
Alors Pierre, pourquoi ce disque en particulier ?
Eh bien certainement parce qu'il marque une époque, les années 80, où le Super Diatabande était au meilleur de sa forme et certainement l'un des plus populaires du Mali. Zani Diabaté débute sa carrière dans les années 60, il fait ses armes dans plusieurs formations et est embauché par le Ballet National en tant que danseur et percussionniste. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à jouer de la guitare et de l'harmonica dans plusieurs groupes. Et c'est avec ces groupes qu'il se fait remarquer comme un guitariste virtuose. Il obtient même le surnom de Jimi Hendrix malien.
Alors musicalement, à quoi ressemble ce disque ?
Alors sur ce disque, on entend ce qui fait la particularité de la musique de Zani Diabaté, c'est-à-dire une très solide basse traditionnelle faite de chants griots, de musique de chasseurs wassoulou. Et puis il pioche aussi dans le répertoire peul, mandingue et sénoufo. Et il associe le tout à des influences occidentales comme le blues ou le rock psychédélique, ce qui est un petit peu plus inattendu. Mais il est vrai, il faut le reconnaître, que cet album, enregistré en direct dans les studios de Radio Mali, a quelque chose d'hypnotique. Alors pour vous faire une idée, je vous propose d'écouter tout de suite le morceau « Fassia ».
Regretté musicien malien Zani Diabaté avec ce titre Fassia. Merci à Pierre Vallée, merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe d'Afrique Soir vous salue bien. À la réalisation ce soir, Quentin Moulin, restez à l'écoute. Adrien Delgrange, je vous attends pour le prochain journal sur la radio du monde. Bonne soirée.
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, avec Camille Sarrazin du réseau des journalistes européens Hunter et mes collègues de RFI, nous allons revenir sur les inondations en Afrique, les impacts de l'extraction de l'or au Mali et la vie de la biologiste Rachel Carlson.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
douleurs intestinales, des conseils pour soulager les maux de ventre.
Vendredi,
dans notre émission Questions de femmes, être une maman solo.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Sœurs, à quoi ressemblent les fratries de filles ? Solidaires ou concurrentes face à l'amour maternel, à l'adversité de la vie ? Votre sœur est-elle votre meilleure amie ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.